le vif du sujet. Bonjour. Aujourd'hui, nous ne vous livrerons point d'autopsie à proprement parler d'un fait divers, mais c'est l'exploration d'un univers attenant que nous allons entamer avec vous, Irène Omelianenko. Et quand je dis univers, il s'agit tout de go de souligner toute la part d'imaginaire et d'ombre qui est liée à la profession que vous nous proposez de radiographier. Moi, j'ai en tête, évidemment, comme bon nombre de nos auditeurs, peut-être cet après-midi, toute une série d'images, de clichés, me direz-vous, suggérés par ces hommes et peut-être ces femmes d'ailleurs. Tiens, Irène, voilà un de premiers clichés qui exerce ce métier mystérieux, profession détective, détective privée, une traversée que vous avez baptisée les enfants de Vidocq. Eh bien, vous aussi, Irène, en quelque sorte, vous jouez avec cette image peut-être galvaudée, non ?
Écoutez, j'avais dans un premier temps envisagé d'appeler l'émission « Les petits-enfants de François Leclerc du Tremblay ».
C'est-à-dire ?
Qui, le père Joseph, et qui, c'est la première police privée française, en fait, fondée par Richelieu. Et j'ai pensé que, justement, ça ne passerait pas et qu'on ne comprendrait pas du tout le sujet. Et je pensais que les enfants de Vidocq, d'abord, beaucoup de détectives ont une vraie admiration pour Vidocq. Bien peu, finalement, arrivent à son aptitude à se déguiser, à incarner n'importe quel personnage. Et puis, restons français, j'allais pas dire les enfants de Pinkerton.
Non, mais vous auriez pu évoquer effectivement les figures qui ont hanté et alimenté toute la littérature noire. Moi, je sais pas, de Sherlock Holmes à Sam Spade, à Philippe Marlowe. En passant, je vois qu'il y a un Léo Mallet qui traîne sur le bureau. Nestor Burma, ah, les privés.
Ah oui, mais bon, c'est vrai que j'aurais peut-être choisi Nestor Burma quand même, parce que même si son personnage est parfois ridicule, j'aime bien. Il a choisi son personnage, il nous dit, parce que le détective privé, alors qu'un journaliste appartient à un patron, un policier à une administration, le détective privé, même dégueulasse, n'appartient qu'à lui-même. C'est une sorte d'aventurier, un marginal, et cela correspond à mon caractère. Et au mien aussi.
Alors, une question, comment vous avez abordé ça ? On va parler de méthode, mais rapidement, ça a été facile de les faire parler, ceux qu'on imagine volontiers se taire, se planquer, être discret, tout du moins. Comment vous y êtes pris ?
Ma méthode a un peu été une non-méthode, puisque, alors d'abord, j'avais été dit, évitez du Luc trop médiatisé. Vous voyez, vous avez Diplopi qui avait fait un très joli travail sur les détectives.
Cette défunte revue de photojournalisme.
Voilà,
oui.
Photo du Luc, dans les archives de la radio, du Luc partout. Donc je me suis dit éviter du Luc. Je voulais aller en Belgique, suivre une école de détectives. Et puis, les deux messieurs qui s'occupent de ça, un des deux était malade, c'était pas possible. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, école française, il doit bien y en avoir quand même un peu. Et puis j'ai rencontré un vieux détective en me disant, lui, il nous racontera un petit peu des histoires qui font rêver. J'ai rencontré un ex-détective, parce que beaucoup de détectives abandonnent la profession. J'ai rencontré des élèves, on a mélangé tout ça avec François Test et fait un cocktail radiophonique magnifique.
Qui se prolongera après la diffusion de ce documentaire dès 16h avec des gens qui sont ici à votre table pour évoquer effectivement ce statut assez flou de cette profession.
Oui, parce que bien sûr le mot de détective fait rêver, notre documentaire va explorer beaucoup de ses facettes, beaucoup de l'ombre de ce métier. Mais l'idée est quand même, soyons sérieux, de capter le réel de cette profession. Alors j'ai pris le meilleur journaliste d'investigation presque, Christophe Deloire, qui va nous dire tout ce qu'il sait sur les détectives privés. Et puis deux maîtres, deux barons de la profession, qui sont des enseignants. Alors Yves Conversano, à l'IFAR à Montpellier, dont j'ai suivi deux élèves et qui m'a beaucoup aidé pour cette émission, ça je dois le dire. Et puis Monsieur Borniche, alors évidemment on pense toujours au fils de son père, mais qui est aussi un créateur d'enseignement, le seul enseignement universitaire de détective en France. Et les trois ont beaucoup réfléchi à la nouvelle loi.
Donc tout ça, c'est à partir de 16h. Pour l'instant, on laisse défiler le documentaire « Les enfants de Vidocq » par vous, Irène Omelianenko, réalisé par François Test.
Je croyais que vous veniez mercredi. Vous n'êtes plus à l'hôtel ?
Il travaille plus à l'hôtel. Il s'est fait renvoyer.
Bah, alors, il cherche du boulot.
Non, on l'a trouvé, ça y est.
Mais qu'est-ce qu'il fait?
Oh, ça, tu devineras jamais. Allez, cherche. Allez, vas-y, cherche.
Je sais pas, mais... Vendeur de journaux.
Oh non, mieux que ça, oh non.
Allez. Bagagiste à Orly, ça doit pas être mal.
Et non, il a pas assez de relations.
Allez, cherche. Je sais pas,
Allez, pas d'imagination.
Artiste peintre.
De moins en moins, ça coûte trop cher.
Écrivain.
Oh non. Mieux payé. Allez, cherche.
Goûteur d'eau?
Ouais, tu dis.
Oui, si, c'est un métier formidable, j'ai vu ça à la télévision.
Non, c'est très protégé comme profession, c'est pas ça, non, moins fatigant.
Mais chauffeur de taxi de nuit.
Ah, c'est bien.
Ah, il y a un petit rapport là, quand même. Allez. Ah, non. Allez, cherche.
Poète?
Non, pire que ça.
Pire?
Moins intellectuel, plus dangereux.
Moi, je sais pas.
J'ai dit dangereux.
Dangereux, je ne sais pas.
Allez. Je vais faire le geste, voilà.
Shérif?
Exactement. T'as pas vu son cheval dans le jardin?
Non, ne plaisante pas.
Non, c'est vrai, je travaille chez un détective privé.
Un détective privé?
Ouais. Antoine Cochon, agent fédéral américain.
Non. Vous connaissez bien l'agence Blady. Agence Blady. Ok, trois recherches, filature.
Ah oui! Oh ben bravo, ça fait formidable. Vous allez nous raconter ça? Allez, venez vite, mettez.
Si vous m'aviez rencontré dans la rue comme ça, juste en me croisant, je vous mets au défi d'avoir deviné ce que je faisais dans la vie.
L'image de la profession telle que nous la connaissons relève du mythe, en fait. Et les mythes dans la vie, c'est comme dans les armoires, ce n'est jamais bon. Nous n'avons pas ou très peu de jolies blondes avec nous. Nous n'avons, vous voyez, j'ai pas de Smith & Wesson sur moi. Je ne vous ai pas promené dans une voiture décapotable. Je ne rentre pas chez les gens par effraction. Je ne pose pas des écoutes téléphoniques. Je n'interviens pas dans les domaines qui sont réservés par principe à la police nationale. J'ai mis trois personnes à la porte, presque avec mon pied quelque part, parce qu'ils venaient me demander de poser des écoutes téléphoniques chez leurs concurrents.
Vous avez une arme ?
Non, absolument pas. Pourquoi faire ? Pourquoi faire, mon Dieu ? Quelle idée !
Douanel, hein ?
Monsieur, oui.
Monsieur. Je voulais vous dire, d'abord, est-ce que vous êtes sûr de voir clair en vous-même ?
Oui, monsieur.
Non, parce que moi, j'ai besoin de voir clair en vous. Et alors, mettez-vous bien dans la tête, ici, c'est pas le cas des enfers. Nous ne sommes pas assermentés, et jamais nous devons nous faire passer pour des inspecteurs de police. Bien sûr, il faut l'initiative, de l'astuce. Notre métier, 10% d'inspiration, 90% de transpiration.
À la Roche-Régime. Vous posez des questions.
Je vous pose des questions.
Ouais.
Ok.
Et après, vous...
Et après, on fait un montage.
Vous cisaillez.
Pour que vous sachiez, donc, on vous voit vous. Et après, on voudrait aller à Montpellier, à l'école de détective.
Ah, chez Yves, là. Chez mon copain Yves.
Oui. Voir un petit peu ce qu'on apprend aux jeunes aujourd'hui, quoi.
Oh, alors là, c'est baratin et compagnie. Hein.
Ah oui.
Ça doit être mon copain. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre aux jeunes? On va lui apprendre à tenir un bureau. C'est pas ça, le métier. Le métier, c'est le terrain. C'est-à-dire en baver du matin au soir, dehors, dans la neige, le verglas, et tout. La pluie, les orages, les typhons. Non, mais blague dans quoi? Non, mais c'est vrai. Tandis que là-bas, chez Yves, là, chez Alifard, là, chez mon copain Yves, qu'est-ce qu'ils apprennent? La filature, c'est baratin. Vous savez, la filature, quelque chose de très difficile. À pied ou en voiture, ou en moto, c'est très difficile. Et ça ne s'apprend que sur le tas. Ça ne s'apprend pas par la langue.
Jackie Choisel, vous avez été détective et vous ne l'êtes plus, ce qui nous donne certainement la chance d'entendre une parole un petit peu plus libre sur ce métier, qui est quand même un métier de secret.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un métier qui consiste bien entendu essentiellement à observer et donc à l'être très peu, le moins possible.
Alors comment peut-on être détective ?
Ouais, disons qu'il y a deux grandes catégories, je dirais. Pour pratiquement la moitié de la profession, on a affaire à d'anciens policiers, anciens gendarmes, d'anciens militaires, des services de renseignement, par exemple. Et puis l'autre moitié est composée de personnes d'horizons divers qui soit ont appris le métier sur le tas, en autodidacte, soit ont tenté une formation dans l'une des rares écoles de détectives. En ce qui me concerne, je suis un petit peu à mi-chemin entre les deux, étant donné que j'avais initialement préparé le concours d'inspecteur de police. Et puis j'y avais renoncé pour différentes raisons. Et puis, j'ai, je pense, réalisé un rêve de gosse. C'est-à-dire qu'on s'est tous pris à un moment donné pour quelqu'un comme Hercule Poirot ou Philippe Marlowe. Et en fait, à un moment donné, le rêve, on en fait une réalité.
Vous, Jean-Emmanuel Grivelet, vous avez décidé d'être détective, donc après une carrière militaire ?
Exactement. J'ai passé 25 ans dans l'armée. J'en ai des souvenirs extraordinaires, mais enfin bon, j'ai quitté de mon plein gré avant d'arriver à l'échéance de l'âge de la retraite parce que j'avais justement envie de m'orienter sur quelque chose de nouveau, mais qui à la fois corresponde à mon goût d'indépendance, à mon goût de voyage, d'aventure, de disponibilité, sans trop savoir exactement où j'allais. Parce que, me dit détective, hein, ça, on a toujours une image très romanesque du détective.
Oui, l'aventurier urbain.
Oui, voilà. Bon, mais on en est à la fois très loin dans la réalité et quelquefois très proche dans la mentalité. Ce qui fait que moi, j'arrive à y trouver mon compte, si vous voulez. J'ai plus tellement envie d'avoir le poids de la hiérarchie, les gens au-dessus de moi, etc. Je suis indépendant, je suis mon propre patron, on va dire. Et puis j'ai toujours cette aventure qui est un peu moins, on va dire, un peu moins dangereuse, mais c'est l'aventure de rencontrer des gens qui ont un tas de problèmes et qui viennent vers vous, qui déballent leur sac en disant voilà, j'en peux plus, je sais plus où aller, je suis perdu, qu'est-ce que je peux faire, où je peux trouver une solution.
Vous êtes un peu le dernier recours.
C'est souvent ça.
Autant que je vous le dise avec franchise, je suis venu vous voir sans raison spéciale.
C'est plutôt rare que vous veniez ici par curiosité, enfin.
Bon, alors vous êtes marié, monsieur Tabar?
Merveilleusement marié, oui, à une femme supérieure, ça je dois le dire. Et aucun problème de ce côté-là.
Je comprends pas très bien le but de votre visite. Qu'attendez-vous de moi, au juste?
Eh bien voilà, personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Il y a toujours, dans quelque affaire que ce soit, un côté sentimental, mais il y a toujours de l'argent en jeu. Donc forcément... Ce sont des affaires qui tiennent beaucoup à cœur les protagonistes, quoi. Alors donc, cette aventure-là, c'est quand même quelque chose d'intéressant à vivre, hein. De rencontrer des situations aussi diverses que s'infiltrer dans le bal d'une grande école à Paris, ou alors faire le magasinier dans un entrepôt de transport. Ça va à tous les échelons de la société, quoi.
Ça, c'est Vidocq.
C'est un peu ce côté-là qui est assez plaisant. Vidocq, on dit, enfin, c'est ce qu'on raconte dans les livres. Vidocq se grimait, passait des semaines entières déguisé en femme pour mener une enquête. Et puis, il y a ce côté un peu, voilà, plusieurs facettes qu'on retrouve pas au quotidien, hein.
La descendance de Vidocq, le créateur en 1832 du Bureau de renseignement universel, a longtemps porté l'imperméable et carburé au whisky dans nos imaginaires. Aujourd'hui, un statut juridique se dessine et dans les presque 3000 agences déclarées de l'Hexagone, les mini-jupes côtoient les trench coats devant des ordinateurs où s'écrivent d'interminables rapports sur votre vie, celle de votre entreprise, celle de notre société tout entière, convoquée dans la toile d'araignée particulière que tisse la profession. Pour mieux saisir la mutation dont se revendique le 8e congrès des détectives, j'ai rencontré, avant de me rendre à l'Institut de formation des agents de recherche, IFAR, le président de l'Ordre, qui, après avoir décliné des offres d'agents très secrets en Allemagne, a embrassé après-guerre la carrière de détective. Déclaré à la préfecture de Paris le 18 juin 1948 sous le numéro 4339D, Robert Torino, le doyen, mais aussi le prince des détectives, témoignent.
Avant, au début, j'étais avec M. Vachonnet dans le bureau et j'écoutais les clients. Et puis de temps en temps, il me mettait avec Julien. Julien, c'était un filocheur à pied. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. C'était un filocheur à pied, Julien. Le mégot, là, le Titi, le vrai Titi. Je me rappelle, on partait avec lui, comme ça, on était sur le trottoir, on suivait quelqu'un, etc. Il me dit, tu vois, tu le vois, hein? Ben, il va traverser là-bas, et puis après, il reprend votre... Ça se produisait comme ça, comme il disait. Vraiment, il avait le nez, il avait le flair. Enfin, avec ce type-là, j'ai appris des astuces, des petites astuces. Et puis, avec Jacques, on s'est installé, tenez-vous bien, boulevard Saint-Germain.
Et alors, dans quel genre d'affaires on vous demandait d'intervenir?
Toutes les affaires. Après, filature surveillance, bon, recherche des personnes disparues. Je ne les fais plus, parce que ça ne rapporte pas. Enquête sur la solvabilité, ça oui. Surface financière patrimoine, oui. Déjà à l'époque, hein. Déjà à l'époque. Recherche généalogique, oui et non. On en faisait, mais j'ai plutôt des copains généalogistes qui, eux, font un boulot extra. Filature surveillante, enquête sur les vols, oui, ben ça c'est classique. Hein. C'est le truc du détective, ça. Contre-espionnage industriel, ça aussi. C'est introduire ce qu'on appelle des taupes à l'intérieur des firmes, des usines, des sociétés, etc. Détournement de clientèle, contrefaçon, ça aussi. Mais ça, on l'obtient par la surveillance. On filoche les commerciaux, les choses comme ça. Et on voit s'ils vont chez l'adversaire ou pas. Hein. Concurrence déloyale, ça fait partie d'au-dessus, là. Détection d'écoutes illégales, oui, mais à l'époque, il n'y en avait pas des masses et c'était absolument décelable tout de suite, parce que c'était des appareils gros, comme, et même plus gros que ça.
Comme un petit poste de radio.
Là, oh ouais. Et il fallait placer ça dehors. Alors déjà, les voisins qui voyaient qu'on installait des trucs comme ça, ils commençaient à se poser des questions, ils parlaient au gérant, qu'est-ce que c'est que ça? Alors nous, on avait quand même trouvé une astuce. On allait trouver le gérant et on se présentait comme étant... des télécoms, c'était pas télécom à l'époque, mais enfin bref, etc., et qu'on avait besoin de relier pour ce... On avait l'autorisation du gérant. Bon, on se présentait à la concierge avec l'autorisation, c'était parfait. Alors, surveillance à pied, en voiture, à moto, oui, j'ai oublié à cheval. En France comme à l'étranger, bah oui, bah c'est classique, c'est les goûts classiques. Vous voyez, c'est tout ça.
Et donc, les 10 premières années ont été un peu vaches maigres, quand même.
Un vachement, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'affaires. Au lieu d'avoir, comme pendant un moment, à l'époque des 30 Glorieuses, j'avais jusqu'à 15 à 20 affaires par semaine, là j'en avais une tous les deux mois. Mais enfin, ça nous a permis de... Et pendant, jusqu'à maintenant, j'ai vécu comme un prince. Je n'ai pas gardé d'argent, je n'ai pas eu d'argent devant moi, j'ai tout bouffé. Mais enfin, j'ai vécu comme un prince. Ah oui, j'ai eu deux filles, si elles ne sont pas là, non. J'ai eu deux filles qui ont été élevées comme des princesses. Moi, je faisais du cheval, du concours hippique à cheval. J'avais trois chevaux. Un cheval pour l'aîné, un cheval pour Carole et un cheval pour moi. Et on partait en concours hippique tous les week-ends, etc. Saint-Lô, le Touquet, enfin bref, etc. Vous voyez, les restaurants, les trucs comme ça, puis tout. Rien n'était trop beau, vous voyez. J'ai eu un bateau aussi, mais pas un bateau yacht, non, un bateau de pêche. Parce que je ne regarde pas, hein. Maintenant, si, je regarde maintenant parce que j'ai des affaires, j'en ai plus comme j'en ai eu. Hein. Alors évidemment, le portefeuille, c'est plus du tout la même chose. Mais il y a encore 3 ans, je ne recevais pas autre part qu'au crayon. L'addition, la dernière addition que j'ai payée, elle était à 2800 francs par tête. Sans les vins. 2800 francs par tête. S'il faisait qu'on était deux, je me rappelle, c'était un avocat, je ne dirais pas son nom, mais enfin bref. On était deux, ça faisait 5600 plus les vins. Mais c'est comme ça que j'ai pu travailler. C'est en arrosant les fournisseurs.
commencé par par ce qu'on appelle la recherche de débiteurs en nombre. En fait, c'est un travail de bureau, ni plus ni moins, qui consiste sur la base de consultations de fichiers administratifs à essayer de retrouver des traces de ces personnes. Et ensuite, dans certains cas, il peut y avoir une vérification sur le terrain. Mais je reconnais que c'est, en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça rapidement frustrant parce que c'était justement un peu trop sédentaire pour moi. J'imaginais mon travail de détective autrement, beaucoup plus sur le terrain. Et puis j'ai commencé à travailler dans une spécialité qu'on appelle, selon les cas, l'insertion, l'infiltration, c'est-à-dire enquêter de l'intérieur dans un milieu, qu'il soit professionnel ou autre.
Écoutez, voilà, on pourrait commencer par enquêter dans votre magasin. Je pourrais placer un périscope.
Un périscope?
Oui, un périscope, voilà ce que c'est. Envoyez-moi le petit douanel.
Tout de suite, monsieur.
Voilà le périscope. Monsieur Tabar, je vous présente Antoine Douanel. Antoine Douanel, monsieur Tabar.
Bonjour, monsieur.
Voilà. Ça va, vous pouvez nous laisser, Douanel.
Il est jeune?
Oui, oui, mais il est très brillant. Surtout pour les enquêtes.
C'est pour les filatures. Bon, ben, il n'a qu'à se présenter lundi et puis je l'embaucherai.
Ah non. Ah non, c'est très imprudent. Il aurait l'air d'être pistonné par vous. Il ne faut pas qu'on croie que vous le connaissiez avant. Non, vous mettez une annonce dans François, on cherche manutentionnaire, vous éliminez les autres et vous l'engagez.
La première filtration que j'ai faite, c'était dans un entrepôt de la région parisienne, du côté de Roissy. Et c'est assez édifiant parce que mon parcours à moi ne m'avait jamais amené à côtoyer des gens qui travaillent comme ça au quotidien, qui travaillent la nuit, qui travaillent avec faire un travail qui est très fastidieux, hein, emballer des bouteilles dans des cartons, les faire rouler sur un tapis roulant, enfin c'est...
Mais de la manutention,
Pénible. Pénible. Donc pendant un mois et plus, on vit complètement en immersion dans ce milieu-là. Alors évidemment, on trompe les gens avec qui on travaille.
Oui, j'allais dire, ça fait... Jean-Emmanuel Grivelet égale Mouchard dans ces cas-là.
Ça a un peu ce côté-là. Mais il faut, je pense qu'il faut tirer un trait là-dessus. On est payé par ce travail-là. C'est ce qui fait fonctionner l'entreprise et qui lui évite bien souvent des faux pas. Il arrive, et là c'était le cas dans cette infiltration en question, qu'il n'y ait pas de vol du tout. Mais par contre, il y avait, on va dire, le terme tel qu'il est, il y avait un bordel incommensurable dans leur stock. Et donc le résultat, quel qu'il soit, même si on n'arrive pas à trouver un voleur, eh ben, c'est quand même un bénéfice important pour la société, parce qu'elle est en mesure, avec cet audit, on va dire, de remettre les choses en route correctement.
Natacha Porteron, à quoi ressemble la détective du 21e siècle?
Alors déjà, ça peut être une femme, puisque j'en suis la preuve vivante. Et on a toujours le cliché de la personne relativement âgée, fumant beaucoup de paquets de cigarettes, avec un trench et ce genre d'idées-là. Et en fait, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Parce que maintenant, ce sont des personnes qui ont soit une formation juridique, soit au moins un bac plus 2, et qui ont suivi les cours de l'IFAR, donc l'école de détective qui se trouve à Montpellier.
Or, quel genre d'affaires vous avez traité?
Alors, C'est très varié. Enfin, de toute façon, les domaines qu'on peut traiter sont vraiment différents. C'est ce qui fait aussi l'attrait de la profession. Et là, la semaine dernière, par exemple, on a traité une affaire de concurrence déloyale. En fait, une personne qui est censée être en arrêt maladie et qui finalement exerce une activité professionnelle parallèle. Et puis, quelques affaires aussi d'affaires privées, donc d'affaires d'adultère.
Ça existe encore, les affaires d'adultère que l'on confie à des détectives?
Oui, tout à fait. Oui. Parce que maintenant, en fait, on se réfère plus à l'obligation de fidélité, étant donné qu'il y a eu un changement au niveau du divorce pour faute. Donc c'est vrai que les constats d'adultère sont un petit peu moins fréquents, mais ils existent quand même.
Alors vous disiez, Roberto Rino, il faut être honnête. Ça veut dire qu'il y a des tentations?
Ah bah oui. Par exemple, ce qui m'est arrivé un jour, je vois un bonhomme qui rentre, c'est... assez cossu, le bonhomme, etc. Et sort, il la met par-dessus la ceinture, il sort une grosse enveloppe, je sais par-dessus, et il dit, voilà, monsieur, ça, c'est à vous. Après que vous m'ayez entendu, ben, il me dit, voilà, telle personne, ben, tout de suite, j'ai compris, c'était sa femme. Il me dit, voilà, il faut vous la suivez. Elle fait les pharmacies, elle achète du Maxiton, et c'est une bonne femme qui était excitée par le Maxiton. Et il fallait l'aborder, et puis évidemment la séduire. Et lui préparait par derrière un flagrant délit d'adultère. Mais vous voyez, il vient me trouver, moi.
Pour organiser.
Non, mais pour que je le fasse. Vous voyez, pour que ce soit moi qui... Alors là, dedans, après, il me l'a ouvert. Il y avait un beau paquet. Hein. Il y avait vraiment un très beau paquet. J'ai dit, non, monsieur, on ne fait pas ça ici. C'est dit, celui-là, je ne l'achèterai pas. Et puis voilà...
Ça veut dire quoi, organiser une mission ?
Ça veut dire, déjà, bon, étant donné que nous n'avons pas de moyens, enfin, nous n'avons pas d'obligation de résultat, nous avons simplement une obligation de moyens, c'est effectuer le meilleur travail dans un minimum de temps. Voilà. Toujours dans la légalité, bien entendu, parce que ça, c'est le leitmotiv. Vraiment, on n'a absolument pas le droit de transgresser la loi. Ça, c'est formellement interdit. Par exemple, au niveau des photos, tout ce qui est photos prises dans les lieux privés sont complètement prohibés. Donc, non, on est très attachés à ce niveau-là, parce que de toute façon, on n'a aucun intérêt à sortir de la légalité, puisqu'après, les rapports ne seront pas pris en compte en justice. Donc, on travaille toujours dans un milieu parfaitement droit et légal.
Attendez, il faut quand même que ou vous mentiez un peu, ou vous vous déguisiez, vous vous fassiez passer pour quelqu'un d'autre pour faire ce métier.
Ah non, mais l'usurpation d'identité est punie par la loi, donc ça c'est formellement interdit. Par contre, se grimer, changer d'aspect, ça c'est tout à fait, tout le monde a le droit de se déguiser, ça il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs, heureusement qu'on peut le faire, parce que quelquefois on se fait repérer malheureusement, donc il faut changer d'aspect physique, mais on est toujours... On travaille toujours dans la légalité.
Est-ce que, Jean-Emmanuel Crivelet, vous avez des liens privilégiés que vous auriez gardés avec l'armée ou avec la police ou avec ce qu'on appelle les nobles correspondants ?
Vous savez que, en ce qui concerne les anciens fonctionnaires de police, cette profession limite leur activité dans le sens qu'un ancien fonctionnaire de police ne peut pas exercer 5 ans après, pendant une durée de 5 ans après avoir quitté les services officiels. Pour la simple raison que ce serait trop facile, on va dire, pour lui d'accéder à des fichiers ou à des informations qui sont propres aux services officiels.
J'ai passé près de 20 ans à la brigade mondaine, sans appartenir à la brigade mondaine.
Et ça, c'est important d'avoir un réseau comme ça.
Oh, là, ça a été capital aussi. Ça a été capital. Et surtout que, étant sur place, je connaissais les grands patrons de la mondaine. J'en ai connu 4 ou 5 des grands patrons de la mondaine. J'avais les grands patrons qui passaient voir leurs collaborateurs, puis qui m'apercevaient, « Torino, venez par ici, je viens vous parler. » Hop, oui, patron. Alors j'allais, je les appelais patron, moi aussi. Et puis il me dit, Torino, j'ai reçu une note d'un préfet qui me demande ça et ça et ça, je ne peux pas donner ça à mes garçons. C'est en dehors de leurs compétences, etc. Et tout. Est-ce que vous voulez bien vous en charger ? Vous me redonnerez ça à moi, en main propre, et tout. Je suis naturellement patron. Puis il me dit, alors évidemment, vous avez la porte ouverte pour tout. Je pouvais demander ce que je voulais. On me renvoyait la censure. J'ai eu des dossiers entre les mains, des dossiers complets, comme ça, que j'emmenais à la maison, que je lisais, que je recopiais. À l'époque, j'avais pas encore de
machine
à photocopier. Et puis je prenais les photographies que je ramenais 48 heures après. Vous vous rendez compte, c'est les dossiers complets.
Ici Pierre Chanès qui vous parle de New York.
Décembre 1955.
Le détective privé new-yorkais, chapeau sur le haut du crâne, colt dans la poche, brut et cabochard, le Lemny Caution de New York va être obligé de se soumettre à une sévère enquête des services de l'État de New York. Sur les 500 agences privées qui ont une licence dans l'État de New York, 300 à 400 se trouvent dans la ville même. Le détective privé doit solliciter des autorités de l'État une licence et un port d'armes. Mais on s'est aperçu que la loi obligeait le boss seul à être enregistré et qu'il pouvait avoir à son service n'importe qui, ce n'importe qui échappant au contrôle des autorités de l'État. Cette enquête a pour origine un scandale qui a éclaté il y a quelques mois. La police avait découvert que d'anciens employés de la compagnie du téléphone mettaient leur matériel volé et leurs connaissances techniques à la disposition de détectives privés pour établir des tables d'écoute et enregistrer les conversations téléphoniques. On apprit ainsi que les conversations de plusieurs chefs d'industrie avaient été enregistrées et une vague d'inquiétude déferla dans le pays. Les agences de détectives de New York devront donc tout d'abord déclarer leurs employés sur lesquels une enquête sera effectuée. Il est fort probable que l'avenir des criminels repentis et entrés dans la police privée est brisé.
Bien entendu, tous les détectives privés que vous allez rencontrer vont vous confirmer que les écoutes téléphoniques sont tout à fait illégales, c'est un fait, c'est vrai. Et qu'ils ne font que du défensif, c'est-à-dire qu'ils ne font que lutter contre les écoutes téléphoniques par des moyens de détection. C'est vrai. Maintenant, je pense que pour savoir se défendre, il faut savoir attaquer. C'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est avant tout, le système d'écoute téléphonique est avant tout un travail technique. Donc, j'en dirai pas plus, mais enfin, vous en tirez les conclusions. Mais là, justement, on est encore on touche à un des problèmes de la profession. C'est-à-dire que c'est une profession qui navigue dans... vraiment toujours à la frontière de la légalité. Par exemple, le seul fait de prendre une photo d'une personne à son insu est déjà un acte illégal. Alors le paradoxe de la profession est que on nous demande des rapports les plus détaillés possibles, on nous demande de les étayer avec un maximum d'éléments probants. Alors évidemment, un des éléments probants peut être une photo, et en même temps, on sait que le fait même de prendre cette photo et de la diffuser est illégal. Donc voilà, je crois que c'est tout le problème de la profession en France, c'est que c'est pareil pour les renseignements administratifs. On nous demande d'avoir des renseignements très précis, vérifiés.
Alors il faut qu'on rende des fonctionnaires, là.
Il faut bien le dire qu'il n'y a pas d'autre solution, étant donné que les détectives privés n'ont aucun accès privilégié aux fichiers administratifs. Un détective privé en France ne peut même pas faire identifier une plaque d'immatriculation. Alors effectivement, oui, je pense que c'est un secret de polichinelle. Vous savez, moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'étais en activité, ces personnes dont vous parliez, on les appelait nos honorables correspondants. Alors, c'était effectivement, ça regroupait toutes les personnes, fonctionnaires ou autres, qui était susceptible de nous donner des renseignements auxquels on n'avait pas légalement accès et qu'on aurait eu beaucoup de difficultés à obtenir autrement. Alors ne nous cachons pas la vérité, oui, il s'agit de corruption. Maintenant, je considérais personnellement que c'était l'intention qui était importante. Et dans la mesure où je me contentais d'employer ces méthodes, quand j'avais le sentiment de servir une cause, une cause qui me paraissait juste, je dirais qu'il fallait ne pas être trop regardant sur les moyens, c'est vrai. Mais de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Il est inimaginable pour un détective en France d'exercer sa profession sans passer par là.
Et voilà, il s'agit d'un ami qui habitait chez moi. Depuis 4 semaines, il a disparu sans laisser d'adresse. Il a laissé des affaires, des vêtements, des objets que je voudrais lui faire parvenir.
Bien. Bien, si vous voulez qu'on retrouve sa trace.
Oui. Oui, mais enfin, ce n'est pas seulement ça. J'aimerais aussi savoir comment il vit, n'est-ce pas, ce qu'il fait, les gens qu'il rencontre.
Mais je comprends parfaitement. Eh bien, nous allons trouver son adresse exacte, assurer une filature et mener une enquête. Ça vous coûtera 30 000 francs par jour.
Très bien. Très bien. Mais vous, vous croyez que ça prendra beaucoup de temps?
Ça, ça dépend si l'adresse de votre ami, de ce monsieur, est facile à trouver ou non. Quelle est sa profession?
Il est prestidigitateur dans les cabarets. Il fait un numéro avec des cordelettes de couleur.
Thierry Lieberman, nous sommes avec vous à Montpellier, dans le cadre de l'IFAR, où vous êtes apprenti détective. Et nous allons commencer avec vous une mission de filature. Alors vous venez de vous transformer de quelqu'un qui était chauve, hyper bien habillé. Maintenant, je me retrouve face à quelqu'un avec une perruque, des lunettes, un imperméable bleu marine avec, qui aurait grossi d'un seul coup. Une transformation nécessaire pour une filature?
Oui, absolument, parce que bon, le premier du détective privé, c'est de ne pas se faire remarquer. Donc, pour ne pas se faire remarquer, il faut changer d'apparence.
On y va alors?
Alors, on y va. Nous allons nous mettre dans ce qu'on appelle un point stratégique, des points de passage obligatoires, de façon à pouvoir voir la personne qu'on est chargé de surveiller dès qu'elle sort et où qu'elle aille, et quelques sorties qu'elle utilise, pour ne pas se faire surprendre. Mon premier travail, ça va être de déterminer le moment où elle va sortir, noter les horaires et de décrire la personne. Voilà, nous sommes à Montpellier. C'est vrai qu'il y a une forte circulation, autant de voitures que de personnes. Donc il faut faire très très attention, être très vigilant, parce qu'on peut perdre facilement les personnes qu'on file. Donc là, on s'est mis à un point, je dirais, stratégique, et on va commencer la filature. Vous voyez, la jeune femme vient de sortir. Vous voyez, c'est une jeune femme blonde, a priori 1m60, 1m65. Elle a les cheveux longs, elle porte un pantalon marron, des chaussures... type montagne marron, une doudoune sans manches noire et un pull marron. Et a priori, elle est blessée à la jambe, donc elle va pas marcher très rapidement, mais c'est pas ce qui va forcément nous faciliter la surveillance. Donc là, on vient de la voir rentrer dans un tabac. Elle est rentrée, elle a discuté avec a priori le gérant du kiosque et elle est sortie.
Donc alors vous là, attendons. Vous restez un petit peu loin, en fait.
Oui, absolument. De toute façon, a priori, comme elle ne marche pas vite, donc on prend un peu de distance. Vous voyez, là, par contre, il va falloir accélérer parce qu'elle a tourné. On ralentit. Donc là, on continue comme si de rien n'était. On croise son regard parce qu'elle a fait demi-tour. C'est pas grave. La boulangerie.
Ah, ouais.
Donc, ça aussi, c'est un des pièges qui vient assez souvent. On court vite après l'objectif qui a pris de suite une petite ruelle. Et là, on tombe nez à nez avec lui. Donc, c'est pas grave, on garde un air naturel, on continue notre chemin, on s'arrête, on regarde une vitrine, comme si de rien n'était. Et on croise surtout pas du regard la personne qu'on est chargé de filer. Dans le jargon, ça veut dire que là, on a grillé une vie. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que je change d'apparence parce que je risque de retrouver encore, de me retrouver dans une situation comparable. Et il ne faut absolument pas qu'elle puisse me reconnaître parce que là, elle sera suspicieuse et donc je ne pourrai plus rien faire au niveau de ma filature, ça ne pourra plus rien dire, elle pourra aller n'importe où, faire n'importe quoi ou même tout simplement me semer.
Alors, une planche, Jackie Choisel, vous avez des souvenirs
Là, on regarde les magasins comme si on était des touristes.
Ah, j'ai des souvenirs, oui, parce qu'effectivement, ça représentait par la suite une grande, grande partie de mon travail. J'ai notamment le souvenir d'une planque dans une rue de Paris qui a duré 17 heures. Et On pourrait imaginer qu'il s'agit simplement d'attendre 17 heures dans un véhicule, ça va, c'est évidemment bien autre chose. Parce qu'il faut rester attentif, parce qu'on a un objectif, parce que ce métier, la difficulté de ce métier, surtout sur le terrain, mais c'est vrai pour tous les aspects du travail, c'est justement qu'on n'est jamais sûr de rien en fait. C'est que si c'était le cas, on n'aurait qu'à venir au bon moment constater ce qu'on vient chercher. Et ce genre de planque, par exemple, c'est vrai qu'il faut une certaine résistance nerveuse. L'esprit, bien sûr, a tendance à s'évader avec la fatigue, et il faut arriver à canaliser son esprit, son énergie, pour isoler de tout ça, de tout ce qui vient parasiter, la personne ou l'événement qu'on est venu chercher.
Donc là, je vais presser un peu le pas. J'enregistre naturellement tout ce que je dis, les rues dans lesquelles elle passe, les magasins dans lesquels elle se rend. Donc là, elle va encore dans un tabac presse. On va passer.
Là, votre dictaphone est branché ?
Mon dictaphone est branché avec un micro déporté, avec un déclenchement vocal.
Et cette filature de 17 heures a abouti ?
Malheureusement, non, pas sur le moment. C'est bien pour ça que je m'en souviens un petit peu douloureusement. Figurez-vous que la personne que j'ai attendue pendant ces 17 heures est sortie d'un hôtel. J'étais tout à fait préparé, j'ai eu le temps pendant 17 heures de me préparer à sa sortie. Et au moment où cette personne est sortie, j'ai été coincé derrière un camion poubelle. Et la personne est partie. Je vous rassure, j'ai pu retrouver sa piste quelques jours plus tard, mais c'est un métier qui vous apprend la patience, c'est certain.
On ralentit, on n'accélère pas. Elle va rentrer dans un café. Donc là, je regarde où elle se rend. Et je vais regarder s'il y a d'autres sorties et si elle voit des gens. En effet, donc elle s'est arrêtée à l'autre sortie. Je pense que j'ai dû être peut-être repéré. Donc dès que j'aurai un moment opportun, je ferai ce qu'on appelle l'opération de désilhouettage, de façon à ce que je sois, je dirais, méconnaissable. Donc j'ai mon lacet qui est défait. En fait, c'est un simulacre. On ne va jamais avoir les lacets défaits. Ah, l'autre aussi, catastrophe. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle la deuxième vie. Elle va passer tout près de moi. Donc, quelque part, c'est aussi un avantage, parce que maintenant, je vais me changer dès que j'aurai l'opportunité. Et là, elle ne me reconnaîtra plus. Vous voyez, là, elle est rentrée, elle a tourné, elle a perdu de vue, et elle est rentrée dans un magasin. Donc là, on va se mettre sur la place, et on va regarder, éventuellement, où est-ce qu'elle pourrait être allée.
Si vous prenez quelqu'un en filature, vous savez tout ce qu'il fait. Tout, tout, tout. Il va dans une banque, vous voyez, pour peu que vous soyez un petit peu correct, normal, vous pouvez pénétrer dans la banque. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, il y a le SAS, il y a tout ça, etc. Mais à l'époque, vous pénétriez dans la banque, vous étiez un peu tout près, vous entendiez son numéro ou des choses comme ça. Vous voyez, numéro de compte bancaire, des tas de choses comme ça. À la poste. Vous voyez, ça se faisait souvent, ça se fait beaucoup moins maintenant. Les gens allaient, puis ils prenaient un bidule, puis ils écrivaient une adresse, ils envoyaient ça à une adresse. Vous étiez à côté, quand c'est du papier, puis vous voyez le nom, là, le patelin, vous voyez le nom et tout. Ça, c'est du bon boulot. Alors,
l'aurions-nous perdu ?
Nous l'avons perdu du regard. Il s'est passé 2 secondes, vous avez vu ? Vu son état physique et vu, je dirais, la configuration du terrain, elle n'est pas très loin. Mais il va falloir marquer sur notre compte rendu qu'on l'a perdu de telle heure à telle heure. Parce que là, elle peut avoir rencontré quelqu'un, avoir discuté, avoir fait un échange de papier. Ça peut être un moment important. C'est un moment très stressant parce qu'on se dit, ça y est, on a perdu la personne que l'on devait suivre. Donc la mission, si on ne la retrouve pas dans les 5-10 minutes, elle s'arrête.
Pour moi, une filature, c'était d'essayer vraiment de me mettre dans la peau de la personne et de me dire à chaque moment, mais moi, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là. Et puis, évidemment, on se rend compte que ça ne se passe pas toujours pareil, et puis que la personne que vous avez suivie pendant des heures et dont vous avez réussi à éviter le regard, d'un seul coup, vient vous demander un renseignement. Une rue, une station de métro, et là, c'est très difficile.
Ok, on l'a revu. Avec un homme, brun, qui a un pull bleu avec des rayures blanches. On va s'installer au café, comme ça on allait prendre quelque chose. Je lui donne un papier, a priori. Elle a transmis un papier. Bon, par chance, c'est peut-être justement l'opération que nous souhaitions voir. C'est un homme de 30-35 ans, a priori grand, avec un pantalon beige, pull bleu donc à rayures, comme je l'ai dit. Et là, elle repart. Il faut accélérer pour ne pas perdre le visuel.
« 18h55, un employé vient fermer les grilles de la poste. 18h58, le surveillé n'a pas réapparu. 19h04, j'abandonne la filature. Alors, si je comprends bien votre rapport, ça signifie que le prestidigitateur a passé la nuit à l'intérieur de la poste, hein ? C'est bien ça. Vous dites-moi.
Non, monsieur, mais je l'ai perdu de vue et je sais vraiment pas où il est passé après.
Mais évidemment, comme il est prestidigitateur, il s'est peut-être fait disparaître lui-même. Bon, je suis absolument certain que le prestidigitateur vous a repéré. Oui, alors, je suis obligé de passer l'affaire à quelqu'un d'autre. Moi, je sais pas que faire de vous. Vous comprenez, vous êtes certainement plein de bonne volonté, mais... Vous êtes décourageant. Bon, allez, laissez-moi.
Quelle est l'affaire idéale que vous voudriez vous voir confier?
Je crois qu'en fait, j'aimerais, dans l'absolu, avoir une affaire de contre-enquête pénale où justement on arrive à trouver des éléments nécessaires pour réouvrir l'enquête et montrer que la personne a été accusée injustement et que grâce au travail qu'on a pu accomplir, on arrive à l'innocenter. Je crois que c'est ça serait l'idéal pour moi. Ouais.
Est-ce que vous vous sentez au service du bien ?
Tout à fait, oui, complètement. À mon niveau, bien entendu. Hein. Je n'ai pas la prétention non plus de changer radicalement les choses. Mais oui, je pense qu'on contribue quelque part à notre niveau à faire que la justice soit établie et que la vérité soit faite. Oui, ça, sans problème. Oui. Et je crois qu'on a besoin justement de ça comme fil conducteur pour pouvoir avancer.
De toute évidence, celui qui fait rêver les jeunes filles en fleurs aspirantes détectives est Roger Marc Moreau, un symbole de la contre-enquête.
Nous avons retrouvé les témoins, notamment ceux qui ont servi pour l'accusation pour faire condamner Omar Radal. Quelques-uns nous ont donné un témoignage différent. Certains d'ailleurs avaient prétendument pas été retrouvés pour le procès. Nous les avons retrouvés. Bizarrement, elles n'étaient pas retrouvées par les services administratifs et comme par hasard, leur témoignage n'était pas tout à fait le même que celui qui figurait dans le dossier. Vous savez, la plupart des personnes ne relisent pas les procès-verbaux lorsqu'ils les signent, surtout lorsqu'il s'agit de prostituées. Ils ont tendance à vouloir se mettre le mieux possible avec les services administratifs et ne pas chercher à aller contre leur action. Dans un second temps, nous avons établi que matériellement, donc Omar Haddad ne pouvait pas se trouver sur les lieux. Nous avons mis en évidence également que le seul élément matériel qui avait servi à la condamnation d'Omar Radad ne tenait pas. C'était notamment les expertises graphologiques. Nous avons trouvé des témoins nouveaux, notamment le président du syndicat des graphologues experts qui s'est prononcé sur les documents en question et qui dénonce les expertises graphologiques. Enfin, nous avons rassemblé un faisceau de présomptions qui semble établir la culpabilité d'autres personnes. Il y aurait peut-être un commanditaire et des exécutants dans ce dossier.
À la différence des services de police, un rapport de détective doit toujours être, non seulement comme je vous disais, étayé, circonstancié, mais il n'est pas anonyme. Et donc les représailles, oui, ça fait partie des risques du métier. C'est-à-dire qu'avec un ami, ça a été le cas. Et on a dû subir effectivement des représailles de la part de personnes sur lesquelles on avait enquêté, auxquelles on a fait quelques ennuis. Et c'est allé suffisamment loin, en tout cas, pour qu'à l'un et à l'autre, ça nous coûte notre agence. Alors, peut-être pas d'une manière directe, mais en tout cas, ça a été, je dirais, en ce qui me concerne, le début de la fin, c'est vrai.
Alors, sans rentrer dans l'histoire, dont je vois bien que vous restez un peu à l'écart, il faut quand même préciser que votre ami a été conduit à utiliser une arme à feu et que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en prison.
Oui, tout à fait, parce que cet ami s'est fait agresser, purement et simplement. Disons que c'est légitime, c'est humain, il a pris peur, il s'est défendu au-delà certainement de ce qui lui était permis, bien sûr. Et cette affaire-là, effectivement, conduit en prison. Mais la peur existe malgré tout dans ce métier, parce que la toute première, celle que connaissent tous les détectives débutants sur une filature, par exemple, la peur d'être repéré. Alors, quand il s'agit d'un mari infidèle, on peut supposer que ça ne va pas avoir trop de conséquences. Mais j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir passé une journée entière en filature derrière un type qui était aussi recherché par la police et qui, de toute façon, aurait certainement très très mal réagi s'il s'était rendu compte que je le suivais. Et forcément, on arrive à un moment où on se pose la question et on a peur parce qu'après, oui, c'est notre sécurité est en jeu, bien sûr.
A priori, c'est quelqu'un de très suspicieux, donc il faut être vigilant. Beaucoup de direction, beaucoup d'arrêts incompréhensifs, et on les note tous. Là, c'est arrêté sous un porche, on a noté l'adresse, on a téléphoné. Là, c'est signé à quelqu'un. Vite, il faut voir ce que c'est. On s'arrête, on regarde par rapport à la vitrine. À nouveau. On l'a perdu, donc c'est pas grave, on continue comme si de rien n'était.
Elle a fait signe à quelqu'un, non ?
Oui, absolument. Et donc là, elle est rentrée quelque part, on l'a pas vue. C'est pas grave, on continue jusqu'au bout de la rue, parce que compte tenu de son état aussi physique, il faut tenir compte de ça. On revient. On va peut-être tourner de suite. Donc là, on note l'heure à laquelle on l'a perdu. Et qu'elle a fait signe à quelqu'un.
Est-ce qu'il y a une dangerosité de ce métier particulière ? Vous qui venez de l'armée et qui...
Oui, alors moi qui viens de l'armée, je vous dirais non. Parce qu'on vit des choses bien plus dangereuses quand on fait le métier que je faisais auparavant. Néanmoins, oui, il y a bien sûr des dangers parce que les investigations peuvent amener à toucher des milieux très très sensibles. Comme la drogue ou le terrorisme ou le grand banditisme. Quand j'étais à Paris, sollicité par une jeune fille qui était australienne, une jeune femme plutôt, qui était australienne, et qui avait des soucis avec son mari, qui était un Français d'origine maghrébine, qui avait pignon sur rue dans un quartier de l'Est parisien, avec un restaurant, un hôtel, enfin... Et ce type-là, se trouve, qui était un petit caïd de la pègre, un indique de la police par ailleurs. Et donc, c'était hyper délicat de venir mettre son doigt dans cette affaire-là. Donc, voilà, le danger, il réside dans ce genre de situation. Quoi.
Là, on est perdu, on va dire, on la trouve plus. Donc, ben... On va attendre quelques temps, voir si elle sort d'un magasin éventuellement, tout en... En regardant, et si on la trouve plus, on considère que la mission est finie, parce qu'on l'a perdue, et il y a très peu de chances qu'on retombe dessus.
Je me souviens d'une affaire, ça je ne peux pas l'oublier, d'un client qui était venu pour une affaire d'adultère, en fait. C'était même pas par jalousie, il était en instance de divorce. Et puis, il voulait se défendre dans sa procédure de divorce. Il savait que sa femme avait un ou des amants. Il voulait simplement... il me demandait d'en apporter la preuve pour faire avancer son dossier, pour se défendre par rapport à son épouse. Quand je lui ai annoncé qui était l'amant en question et son identité, la situation a pris un tour très différent, étant donné que cette personne était un ami de longue date de mon client. Et il a tué 6 balles de revolver. La leçon que j'en tire, c'est que même quand on... Surtout, je dirais, quand on traite des affaires qui ont un fort aspect affectif, la profession de détective réclame bien autre chose que simplement des techniques d'investigation. Je me souviens aussi d'une affaire où une adolescente ou jeune adulte, je crois, de 18 ans à peu près, elle avait disparu. Et ses parents étaient persuadés que cette disparition était suspecte, dans le sens où ils avaient peur d'un enlèvement, quelque chose comme ça. J'ai retrouvé cette jeune fille. Bon, je me suis rendu compte après qu'il y avait une affaire d'attouchement, d'inceste. Et je me sentais d'un seul coup une lourde responsabilité, parce que j'avais ses parents pour clients, et puis je me rendais compte que ses parents, enfin son père en tout cas, était quelqu'un qui était un monstre en quelque sorte, quoi. Donc là, c'est on se rend compte que cette profession peut vraiment avoir des on touche tellement à ce qu'il y a d'intime dans la personne que parfois, effectivement, on marche sur des œufs, quoi. Il faut faire très très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et à la manière dont on le fait.
Les enfants de Vidocq étaient Natacha Porteron, Thierry Lieberman, Christine Sinal, Jean-Emmanuel Grivelet, Jackie Choisel, Robert Torino, enregistrés par Emmanuel Perrault et Philippe Etienne. Archivina, Véronique Jolivet, extrait du film « Baiser volé » de François Truffaut, réalisation François Test.
Il est 15h58, nous voici en direct du studio 167 avec mes trois invités pour essayer de cerner mieux ce détective du 21e siècle, à la fois figure mythologique et homme ou femme, on l'aura vu, bien réel, qui peut aller jusqu'à provoquer la mort. Or, Yves Conversano, je vous ai rencontré à Montpellier, dans votre bureau, mes yeux hésitaient. D'un côté, il y avait un aigle qui représentait votre agence, l'agence Aigle. Et puis en face de moi, une photo avec des enfants kidnappés. Et puis sur la cheminée, une photo où on vous voit l'arme au poing, le bras tendu. On va dire un exercice de tir. Image du détective déjà un peu compliquée. Alors comment vous réagissez très rapidement à ce document sonore que nous venons d'entendre?
Donc, sur ce qu'on vient d'entendre, donc on vient d'avoir, je dirais presque un cliché, un vieux cliché de la profession, aussi des témoignages nouveaux, puisqu'il y a des gens, des stagiaires qui ont parlé. Mais je veux dire, en fait, les détectives traînent toujours derrière eux cette caricature qu'on a, notamment notre confrère Torino, que nous aimons tous, qui est le doyen de la profession, donc qui en fait nous raconte des histoires qui se sont passées il y a 50 ans. Et à l'heure actuelle, je veux dire, la profession a un petit peu évolué, les méthodes ont changé.
Attendez, il travaillait encore il y a 3 ans. Non, c'est pas le dinosaure intégral quand même.
Je dis pas dinosaure dans le mauvais sens du terme, je dirais dinosaure dans le sens ancien. Et je crois pas que Robert Torino emploie toujours les mêmes méthodes qu'il y a 50 ans, c'est évident.
Et vous, Christian Borniche, alors vous avez, c'est difficile parce que à la fois vous êtes détective, à la fois vous êtes responsable d'une formation universitaire, donc avec un niveau de parole qu'on attend d'un universitaire, puis en même temps vous êtes le fils de votre père. Et donc j'imagine qu'il y a des réactions très différentes.
Oui, mais je voudrais quand même réagir à ce que disait justement notre ami Torino. Moi, j'appelle ça la police privée de papa. Alors, c'est-à-dire...
Vous parlez de son père à lui.
C'est-à-dire une forme d'exercice qui est en voie d'extinction, de disparition. Quand il dit, par exemple, qu'une école, ça ne sert à rien, qu'il faut être sur le terrain, oui, bien sûr qu'il faut être sur le terrain, mais il faut aussi connaître les limites de l'exercice de la profession. À quoi servirait de faire une filature si ensuite on ne peut pas l'utiliser dans une procédure? Si, par exemple, la preuve est considérée comme illégitime par le tribunal, ce qui est le cas, par exemple, de la filature des salariés à leur insu, ça ne sert à rien d'avoir fait la filature et donc d'avoir fait dépenser de l'argent à son client. Donc il faut bien avoir une formation professionnelle, une formation juridique, pour connaître les limites, les obligations que doivent respecter ce que l'on appelle les agents privés de recherche.